Chapitre 40. Grotte du Sirdaria, Kazakhstan. La grotte était éclairée par près de 1000 chandelles. Elle paraissait aussi vaste qu'une cathédrale. Les 300 assignés s'y tenaient, assis sur des coussins de mousse et de feuilles tressées. La roche calcaire avait été creusée par des millénaires d'érosion, formant une succession de gradins naturels qui donnaient à la caverne des allures d'amphithéâtre. Au fond de la veine, dans la partie la plus éclairée, une vaste estrade de bois avait été installée. Aucun autre meuble, ni perchoir, ni micro. L'acoustique de la grotte amplifiait chaque chuchotement qui rebondissait en écho d'une paroi à l'autre. Pour que l'assemblée ne soit pas transformée en cacophonie, chacun respectait le silence et laissait parler l'orateur. L'oratrice, d'ailleurs.
« C'est notre délégué !»
souffla le plus discrètement possible un homme barbu, assis au premier rang de l'amphithéâtre entre Lilio et Cléo. Des « chut » surgirent de chaque côté. La déléguée allait parler. Elle s'avançait vers l'estrade, les cheveux recouverts d'un voile.
« Je déclare ouverte la 17e Assemblée internationale des peuples libres. Moi, Assima Majdalawi, représentante du peuple palestinien, prête le serment de défendre toute ma vie durant l'héritage et les usages transmis par mes ancêtres, par mes parents, par mes frères et tous les hommes et femmes de ma terre, de les transmettre à mes enfants, d'en défendre la mémoire et d'entretenir l'espoir qu'ils puissent un jour y être à nouveau pratiqués librement.
« Ça va durer un peu longtemps, »
souffla le barbu assis entre Lilio et Cléo. À quelques rangées d'eux, un homme chauve, vêtu d'une tunique orange, s'était levé, cœur sur la main.
« Moi, Torma Wangdi, représentant le peuple tibétain, prête serment de défendre toute ma vie durant l'héritage et les usages transmis par mes ancêtres, par mes parents, par mes frères et tous les hommes et femmes de ma terre. »
Son serment était en tout point identique à celui de la présidente palestinienne. Une nouvelle femme, à la peau couleur de brique, se leva dans le coin gauche de la grotte.
« Moi, Elisapi Unark, représentant le peuple inuit, je prête serment de défendre... »
À sa suite défilèrent un représentant Osset, un aborigène, un Hutu, un Karen, un Abkhaz, un Copte, un Sami. Le voisin barbu de Lilio et Cléo leur souriait de ses dents jaunes.
« C'est le moment où je peux vous parler. Ça va durer encore un bout de temps. On a recensé plus de 600 peuples dans le monde. Je vous rassure, il n'y en a que 131 représentés dans notre assemblée. Moi, je suis Corse, Fabio Idrissi. Nous sommes 5 assignés. C'est mon frère Angelo qui prononcera le serment aujourd'hui. »
Des assignés installés sur les coussins ou les gradins les plus proches grognèrent pour le principe, mais la plupart semblaient rêvasser en attendant la fin du rituel.
« Vous voyez, » poursuivit le barbu, « on arrive tous à cohabiter sans se taper dessus. »
Un représentant kurde prêtait serment en bafouillant. Les yeux de Lilio se perdirent dans chaque coin de la grotte, puis vers la seule ouverture, une étroite fissure sur leur droite.
« Ne craignez rien, » précisa Fabio. « On ne court aucun danger. On laisse toujours des guetteurs à l'extérieur pendant les assemblées. Vous savez, aucune force impériale n'a jamais pu éradiquer la résistance des peuples opprimés. Même la plus puissante de toutes, les États-Unis, dans les années 2000, avec leurs drones et leurs satellites, n'a jamais pu déloger les rebelles des montagnes de l'Irak, de l'Afghanistan ou du Pakistan. »
Un représentant ouzbek déclamait sa tirade la main sur le cœur. Cléo avait déjà compté une bonne centaine de délégués et notait que tous prononçaient leur serment de plus en plus rapidement.
« On accélère un peu, » précisa le Corse en riant. « On a un ordre du jour chargé, à cause de vous. »
Un représentant tchétchène jura, puis un Québécois, puis un Mapuche et enfin un Sahraoui.
« C'est fini ?»
demanda Cléo. À cet instant précis, tout le monde se leva. Lilio et Cléo furent entraînés par le mouvement, alors que tous les assignés prononçaient d'une même voix, telle une prière,
« Une seule terre à partager, un seul monde à bâtir, les océans en sont le ciment, les peuples en sont les briques. »
L'Assemblée internationale des peuples libres pouvait enfin commencer. Hassima Majdalawi, la déléguée, évoqua longuement une liste de thèmes guère passionnants aux yeux de Cléo et Lilio. Les divers sujets à traiter ne portaient pas sur la politique, mais sur des questions pratiques d'organisation de la vie au Kazakhstan, de gestion des ressources et d'intendance, les récoltes, le bétail, l'entretien des habitations, la surveillance des chevaux. Les débats s'éternisaient sur des points de détail. Les semences à utiliser ou à conserver, la délimitation exacte des propriétés, la répartition des tâches collectives. La plupart des assignés s'exprimaient d'abord dans leur langue d'origine, puis ensuite seulement traduisaient leurs propos en espagnol, la seule langue que tout le monde semblait comprendre, ce qui ralentissait encore davantage le rythme des échanges. Au bout de presque 3 heures de discussion, la déléguée poussa un long soupir de soulagement et déclara que les questions habituelles de l'ordre du jour étaient épuisées. Elle tourna alors ostensiblement les yeux vers Lilio et Cléo. La force du regard de la représentante palestinienne, sa dignité mêlée de curiosité, impressionnait.
Passons donc sans plus attendre à la question centrale de notre assemblée exceptionnelle. Monsieur Lilio de Castro, mademoiselle Cléophée Loisel, nous supposons que si vous avez voulu nous rencontrer, si vous avez pris le risque de pénétrer sur notre territoire, c'est que ce que vous aviez à nous dire est important, suffisamment pour que nous vous donnions la parole. Mais avant cela, je tiens à vous fournir quelques précisions. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît.
Le représentant corse, assis près du journaliste et de l'institutrice, arborait désormais un masque solennel, semblant prêt à les assommer s'ils coupaient la parole de leur délégué.
« Nous savons, expliqua Sima Majdalawi, nous devinons plutôt, que fort peu d'êtres humains sur cette terre sont au courant de notre existence. Les rares échos de l'extérieur ne nous parviennent que lorsque de nouveaux assignés sont envoyés ici. Ils nous confirment que pour la majorité des terriens, nous, les assignés, sommes une légende, une rumeur, un mythe pour les plus crédules. Nous n'ignorons pas non plus que pour les rares autorités judiciaires, militaires ou politiques, au courant de notre existence, nous représentons une grave menace. Nous sommes à leurs yeux des terroristes, des criminels, des ennemis sanguinaires. La peine de mort ayant été mondialement abolie, il leur était moralement impossible de nous exécuter. Alors ils nous ont bannis. Mais où bannir des humains sur une planète sans frontières? Ce n'est pas le moindre de leurs paradoxes, monsieur de Castro, mademoiselle Loisel. Pour nous exiler, ils ont dû enfreindre leur principe premier, recréer une frontière, protégée par des militaires, et nous laisser quelques kilomètres carrés pour vivre notre utopie.
La Palestinienne sourit tout en resserrant autour de son cou le nœud de son foulard.
Peut-être ont-ils imaginé qu'on se dévorerait entre nous. Ils sont tellement obsédés par l'idée que les nationalistes ne peuvent cohabiter sans s'entretuer. Vous pouvez le constater, ce n'est pas exactement le cas.
Partout dans l'amphithéâtre, les assignés, sans prononcer aucun mot, se sourirent en signe d'une profonde amitié.
« Les guerres entre les peuples, continua la déléguée, ne sont que de courtes parenthèses entre de longues phases d'échange, de commerce, d'enrichissement culturel et intellectuel mutuel. Un monde sans peuple est une ineptie, monsieur de Castro, mademoiselle Loisel. C'est un monde orphelin, c'est un monde égoïste, c'est un monde condamné. Tous les monuments, tous les arts, tous les savoirs sur lesquels repose le monde actuel n'auraient pas existé si les peuples, puis les nations, puis les États n'avaient pas existé. Mais que construit le monde uni d'aujourd'hui? Quel patrimoine bâtit-il pour les générations futures? Sans peuple, il est condamné à vivre sur les ruines de cultures déjà moissonnées, sans rien replanter. La terre deviendra stérile. La terre est déjà stérile. Nous ne sommes pas des terroristes, monsieur de Castro, mademoiselle Loisel. Nous sommes de simples prisonniers politiques qui réclamons le droit de vivre sur la terre de nos ancêtres. En paix. En paix. Vous m'entendez?
Hassima Majdalawi en avait terminé. Lentement, Lilio se leva. Il se dirigea vers la tribune pour que l'ensemble des assignés le voie.
« Ce n'est pas vous qui êtes dangereux, » déclara d'emblée Lilio. « Et, pour être franc avec vous, je ne crois pas que le Congrès mondial, le président Galileo Nemrod ou même les militaires de l'Organisation militaire mondiale vous considèrent réellement comme des terroristes capables de faire couler le sang ou de vous faire sauter une ceinture d'explosifs autour de la taille pour défendre vos idées. Tout cela appartient au passé. » « Ce n'est pas vous qui êtes dangereux, c'est ce que vous représentez. »
Jamais la grotte n'avait paru aussi silencieuse. Tous les assignés écoutaient religieusement le journaliste. Cléo elle-même était impressionnée.
L'Ecclésia a identifié son pire ennemi, le même partout dans le monde, dès que fut mise en place la démocratie après une courte phase d'euphorie. Le désenchantement, l'envie de nouvelles utopies. Vous représentez une de ces nouvelles utopies. Vous représentez un recours, un espoir. Vous le représentez pour vous, et vous pourriez le représenter pour des milliards d'habitants qui se sentent trop seuls, trop peu aimés, trop peu aidés, trop peu connus, trop peu reconnus, trop peu soutenus. Votre discours, vos convictions sont, pour l'Organisation mondiale des déplacements, un poison. Un poison qui pourrait facilement se propager dans toutes les mers et sur tous les rivages de la Terre jusqu'à fissurer les principes de la Constitution de 2058. Une seule terre, un seul peuple, une seule langue. Des sifflets et des cris hostiles s'élevèrent avant même que le journaliste ait terminé de réciter la devise de l'OMD. « Mais !» poursuivit Lilio comme si ses protestations l'encourageaient. « Vous avez tort sur un point. Une terre unie, réunie, est tout aussi capable que tous les peuples et civilisations de jadis de laisser un patrimoine à ses enfants. » Dans les gradins, les huées se firent plus insistantes. Lilio haussa la voix en tribun affrontant les tribus. « Qu'est-ce qui empêche un gouvernement mondial de construire de nouvelles cathédrales, de nouvelles tours, de nouveaux châteaux ?»«
Au nom du fric !»
cria une voix anonyme dans la grotte.
« Du béton sans âme, des pierres sans histoire, des palais sans passé, rien que du commerce, aucune spiritualité !»
Cléo avait l'impression que tout pouvait dégénérer d'un instant à l'autre. Lilio ne céda pourtant aucun terrain.
L'OMD va fêter le centenaire de la téléportation quantique, demain, sur l'île de Tristan d'Acunha. Leur idée est d'y téléporter, pour quelques minutes, l'humanité tout entière, dans un immense bâtiment, le plus grand jamais construit, bâti pour cette occasion unique, la Nouvelle Babel.
Les protestations dans la grotte cessèrent immédiatement. Visiblement, aucun des assignés ne disposait d'informations aussi précises sur ce projet.
« N'est-ce pas la même chose ?» triomphait le journaliste. « Un lieu sacré, monumental, une cérémonie symbolique, un rituel, un idéal. Ce projet du président Nemrod ne ressemble-t-il pas à ceux qui donnaient un sens à vos peuples, vos nations, vos territoires ?»
Il marqua un silence un peu trop long, qui laissa le temps à Asima Majdalawi de poser une question.
« Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'êtes-vous venu faire ici ? Qu'êtes-vous venu nous dire ?»
Lilio sourit.
« Vous dire ? Peu. Vous écoutez ? Beaucoup. Je ne suis qu'un journaliste. Mon rôle, mon seul rôle, est d'informer. Je suis venu vous rencontrer, vous entendre. Et si vous me le permettez, je suis venu révéler votre existence au monde entier. Le Congrès mondial ne vous laissera pas faire, »
fit Asima Majdalawi, méfiante.
« On essaiera de m'en empêcher, bien entendu. Mais jusqu'à présent, ils n'y sont pas arrivés. »
Cléo n'aima pas le sourire de contentement qui se dessinait sur les lèvres de Lilio. Un rictus aussi prétentieux qu'inutile. Le regard désabusé de la déléguée prouvait qu'elle n'était guère impressionnée.
« Je crois que vous surestimez vos pouvoirs, monsieur de Castro. Vous publierez un article sur les assignés ? Formidable. Et ensuite, 100 autres journalistes rédigeront des articles énonçant une vérité contraire. Vous croyez peut-être que nous n'y avons jamais pensé ? Marcher jusqu'au-delà des frontières, échapper aux militaires et transmettre des messages à l'opinion ? Défendre notre honneur ? Certains d'entre nous ont essayé, et ce ne fut qu'une pierre jetée dans l'eau. Quelques remous devenus rumeurs, auxquels personne n'a cru ou prêté attention. Les terriens sont noyés d'informations. Chaque heure, une nouvelle question est posée sur l'Ecclésia, susceptible de faire tourner la Terre à l'envers. Pour frapper l'opinion, il faudrait des actions beaucoup, beaucoup plus spectaculaires. Nous n'ignorons pas lesquelles, mais nous avons renoncé à toute forme de terrorisme criminel.
Des applaudissements enthousiastes retentirent dans la grotte. Cléo ne put s'empêcher d'admirer la noblesse des convictions des assignés, fidèles à leurs principes, à leurs certitudes, mais s'interdisant toute violence pour les imposer. L'esprit chevaleresque des causes perdues d'avance ?
J'ai une proposition !
Cria soudain Lilio, assez fort pour couvrir le bruit des applaudissements. Le brouhaha cessa aussitôt.
« Je vous offre un moyen de faire connaître au monde vos revendications, » affirma le journaliste, « grâce à une action spectaculaire et pacifique. En échange, vous m'assurez de l'exclusivité du reportage sur cette action. »
Il marqua un silence pour laisser à l'auditoire le temps d'évaluer les conséquences du pavé qu'il venait de jeter. Le temps, surtout, d'ôter le sac sur son dos, de l'ouvrir et d'exhiber bras levés une pleine poignée de TPC. Un murmure parcourut l'assemblée. Tous évidemment reconnaissaient cet objet tant détesté, cet objet dont eux seuls sur Terre étaient privés. Cléo n'arrivait pas, elle non plus, à détacher ses yeux du bouquet de TPC que le journaliste agitait, tel un camelot bradant sa pacotille. Son cœur s'affolait. Enfin, elle comprenait. Lilio n'avait rien laissé au hasard. Son plan avait été programmé dès qu'il avait découvert ces TPC clandestins dans le repère de Tan Prao, puis l'existence des assignés. Un plan complètement insensé.
« J'ai dans ce sac plusieurs centaines de TPC, » certifia Lilio. « Clandestins et anonymes. Grâce à eux, dès que vous aurez franchi la frontière du Kazakhstan, à cheval, à vélo ou à pied, vous pourrez vous téléporter où vous le voudrez. Personne n'aura le temps de vous en empêcher. »
Il défia du regard Asima Majdalawi, puis dévisagea un à un les membres de l'Assemblée internationale des peuples libres assis au premier rang de l'amphithéâtre de pierre.
« Vous pourrez vous téléporter sur l'esplanade du Temple de Jérusalem, » dit-il, « le long de la ligne verte de Chypre, du mur des sables marocains, au sommet de la citadelle d'Erbil ou au fronton du Potala de Lhasa. »
Lilio paraissait avoir retenu avec précision, lors du rituel des serments, de quel peuple chaque homme ou chaque femme installé dans les gradins était le représentant. Cléo devait s'avouer impressionné, tout autant que consterné.
« Avant même que l'OMD ne puisse réagir, » poursuivait le journaliste, « vous pourrez planter le drapeau de votre nation dans n'importe quel lieu de mémoire. Vous pourrez y déclamer n'importe quel message dans votre langue. Y chanter, y prier, y danser, y rester, vous y enchaîner. Et je serai là, partout à la fois, pour tout photographier, tout filmer et tout diffuser en direct sur l'Independiente Planète. »
L'assemblée se taisait, stupéfaite. Certains assignés, bouleversés par l'émotion, retenaient difficilement leurs larmes. Ce journaliste pouvait-il dire la vérité? Était-il imaginable qu'une simple pression de doigt sur un de ces TPC les téléporte vers leur terre natale, cette terre promise qu'ils avaient cru ne plus jamais fouler?
« Gagnant-gagnant !»
continuait de négocier Lilio, conscient de l'ascendant qu'il avait pris sur l'assemblée des assignés.
« Je vous offre une tribune exceptionnelle pour délivrer vos messages. » Contre l'assurance que vous n'entreprendrez aucune action violente, que pas la moindre goutte de sang ne coulera. En échange de cette promesse, le monde entier vous entendra. J'en serai le média, le seul média. »
Lilio s'arrêta. Il n'y eut aucune question, seulement un intense brouhaha. Tout le monde parlait à la fois, à voix basse, à ses voisins, dans toutes les langues. Asima Majdalawi déclara d'une voix forte, couvrant imparfaitement le bruit de fond, qu'elle suspendait la séance pour laisser le temps à chacun de réfléchir, de discuter, et que les débats reprendraient dans 30 minutes. Alors l'Assemblée internationale des peuples libres devrait voter sur la proposition de Lilio de Castro.
Voter, pensa Cléo.
Elle observait les visages rayonnants des assignés. Ils ne s'interrogeaient pas sur la proposition de Lilio, ne se demandaient pas s'ils devaient l'accepter ou non. Tous discutaient déjà du monument qu'ils choisiraient pour leur téléportation commando, de l'action choc qu'ils entreprendraient, des mots qu'ils utiliseraient, de la tenue qu'ils porteraient. Un miracle. Ce journaliste leur apportait un miracle. Jamais Lilio n'avait été autant aimé. Jamais Cléo ne l'avait autant détesté.
« Attendez !»
Personne, pas même Asima Majdalawi, Lilio ou Cléo, dans l'euphorie générale, n'avait fait attention au vieil homme qui s'était approché de la tribune.
« Chers collègues, attendez! J'ai une autre proposition. Madame la déléguée, puis-je l'exposer ?»
Asima regarda longuement l'assigné qui s'avançait vers le centre de la tribune. Il irradiait de lui une autorité naturelle, une force de conviction soulignée par son regard clair.
« Je vous en prie, vous avez le droit à la parole comme chacun d'entre nous. Nous vous écoutons, Ossian. »
Ossian s'appuya sur sa canne. Il semblait reprendre son souffle. La force de sa voix, aussi soudaine que puissante, électrisa l'auditoire.
« Naïf que vous êtes !»
Le silence se fit à nouveau dans la caverne, plus impressionnant que jamais.
« Vous pensez changer le monde avec des banderoles ? Accrochées au fronton du Kremlin ou du palais du peuple de Pékin ? Rédigées dans des langues que plus personne ne comprend ? Vous croyez changer le monde avec des chants, avec des slogans, en plantant des drapeaux qui ne sont plus rien d'autre que des logos colorés, en prenant d'assaut des mausolées, des églises, des cimetières, des palais royaux qui ne sont plus rien d'autre que des destinations touristiques, profanées chaque jour par des milliers de visiteurs ignares. Vous croyez changer le monde ainsi ? Vous ne ferez rien d'autre que flatter votre orgueil et votre misérable nostalgie, et le nouveau monde triomphera, plus puissant encore qu'avant, car votre action n'aura été que folklore, spectacle de majorette, pitoyable et désespéré danse de sauvage. Le monde s'amusera, rira et pire, applaudira, et rien ne changera. Naïf que vous êtes, n'avez-vous rien appris de nos ancêtres ? N'avez-vous pas compris l'histoire des siècles ? Il n'y a qu'une seule façon pour un peuple, une nation, une religion de se faire entendre, de se faire respecter, de résister, sinon il disparaît. La peur qu'il inspire. Il n'y a qu'une seule façon d'obliger l'autre, celui qui ne pense pas comme vous, à négocier, la force. Admettons-le, ils nous ont écrasés. L'OMD, le Congrès mondial et Nemrod ont gagné, un triomphe. Ils détiennent tous les pouvoirs. Ils sont les lions, les tigres, les éléphants. Nous ne sommes que des moustiques.
Ossian laissa filer un long silence. Les visages des assignés ne dévoilaient aucune émotion, aucune réaction. Ils attendaient.
« Alors piquons-les » cria Ossian.
Il espérait sans doute qu'une salve d'applaudissements et de cris de guerre se soulève en écho à ses propos, mais il n'entendit qu'une dizaine de partisans l'encourageant timidement.
« Depuis la nuit des temps et l'aube des nations !»
continua pourtant Ossian dans le même élan.
Ce ne sont pas les pacifistes qui ont fait les révolutions, ce sont les combattants. Appelez-les comme vous le voulez, guérilleros, mujahidines, résistants ou terroristes, si vous en avez le courage. Mais c'est la seule façon de lutter. Frappez, frappez, frappez. Frappez les ennemis au cœur, puis disparaître. Voilà ce que je vous propose, frères et sœurs apatrides, saisissons-nous de cet EPC sans rien demander, sans rien promettre à ce journaliste. Dispersons-nous et frappons ce monde partout où nous le pourrons. Seule la mort et la terreur feront changer l'opinion. »
Ossian se tut enfin. Quelques dizaines d'assignés l'acclamèrent, debout, dans les gradins. Cléo tremblait de la tête aux pieds. Cet homme, Ossian, était fou. Le projet de Lilio était délirant. Il avait joué avec le feu, un feu d'une puissance colossale, en livrant cet EPC clandestin aux assignés. Il avait mis en branle une machine infernale. Ossian appuya sa main droite sur le pommeau de sa canne et tendit la gauche en direction de Lilio, debout à 10 mètres de lui. Son geste ne souffrait d'aucune ambiguïté. Le journaliste devait lui remettre les TPC clandestins sans aucune contrepartie. Lilio soutint le regard du vieil homme, mais ne bougea pas. Ossian le défia d'un rictus méprisant.
« Ne soyez pas ridicule, monsieur de Castro. Nous n'avons pas besoin de votre autorisation pour nous saisir des armes que vous nous avez si gentiment apportées. Nous ne vous devons rien. Nous ne serons pas des acteurs de la pièce que vous voulez nous faire jouer pour votre seule gloire. Libre à vous de nous suivre, de filmer, de photographier. Vous ne serez pas déçus. Il y aura du spectacle, vous verrez. Des larmes, du sang, du sensationnel. »
Cléo se retenait de hurler. d'ordonner à Lilio de fuir, de balancer ce sac rempli de TPC où il le pourrait, au fond d'un précipice dans un feu de cheminée. Elle imaginait le carnage insensé que pourrait provoquer plus de 300 terroristes, prêts à tuer, se téléportant à la même seconde dans les endroits de la planète au plus fort taux d'occupation. Effondrée d'avoir pu être complice d'un tel massacre, les yeux embués de larmes, elle ne vit pas Asima Majdalawi se rapprocher à nouveau du centre de la tribune et se positionner entre Ossian et Lilio.
« Ossian, Monsieur de Castro est notre hôte. Il est venu de son plein gré nous proposer son aide et ses conditions. En conséquence, nous devons le traiter avec... »
Sans la laisser finir, Ossian écarta la déléguée d'un vif mouvement de canne avec la même désinvolture que s'il avait repoussé un rideau, puis fit un pas vers Lilio.
« Nous ne sommes pas des pions à sacrifier sur votre échiquier, monsieur de Castro. Nous savons parfaitement que notre cause vous indiffère, que seul vous intéresse votre carrière. Pouvez-vous me jurer devant cette assemblée que vous êtes de notre camp ?»
Lilio avança lui aussi, défiant Ossian. L'idéologue au dos voûté et le journaliste étaient sensiblement de la même taille.
« C'est exact, Ossian, je ne suis pas de votre camp. Ni de celui de Nemrod, ou du Congrès mondial. Je ne suis d'aucun camp, et vous avez raison, j'ai de l'ambition. Comme n'importe quel journaliste, comme n'importe quel artiste, comme n'importe quel homme politique. »
Il plongea son regard dans celui d'Ossian en prononçant ce dernier mot.
« Mon ambition est d'informer le monde, pas de le juger. Comme n'importe quel reporter de guerre ou de paix, si j'ai cette chance. Ce n'est pas à moi de juger, c'est à l'opinion. Et elle doit être éclairée. Je dois l'éclairer, simplement l'éclairer. »
Ossian éclata de rire sans cesser de tendre la main au journaliste.
On verra. On verra si vous resterez neutre quand coulera le sang. Comme chacun et comme chacune en temps de guerre, il vous faudra choisir votre camp.
Il s'avança, bras en avant, pour saisir le sac que le journaliste refusait de lui remettre. Asima Majdalawi le bloqua, d'une main ferme posée sur sa canne. Elle était plus grande que les deux hommes en tribune, plus droite aussi. Elle fit signe à Lilio de retourner s'asseoir au premier rang, à côté de Cléo, et à Ossian de rejoindre sa place.
« Bien !» annonça-t-elle d'une voix calme, comme si le prêche d'Ossian n'avait pas plus d'importance que le quart d'heure passé par l'assemblée à discuter sur la répartition des graines d'avoine avant les plantations de printemps.
Chacun a pu s'exprimer. La séance est donc suspendue pour 30 minutes. Chacun peut discuter librement. Nous passerons au vote ensuite à main levée.
Il régnait dans la grotte des assignés un silence de cathédrale. Asima Majdalawi se posta au centre de la tribune pour prendre la parole. Elle posa sa question sans préambule ni autre formule d'introduction.
Que ceux qui sont pour que nous utilisions les TPC apportés par Lilio de Castro, afin de nous téléporter dès que nous serons hors des frontières du Kazakhstan, lèvent la main.
Cléo n'eut pas à compter. Presque la totalité des bras, moins une dizaine, s'était dressée.
Bien, conclut Asima sans montrer la moindre émotion. Nous devons donc trancher entre deux options. L'action pacifique proposée par Lilio de Castro et l'action que je qualifierais de radicale proposé par Ossian. Que ceux qui sont pour la première option lèvent la main.
Deux tiers des membres de l'Assemblée, sans hésiter, tendirent le bras.
Parfait, fit Asima. La première option est adoptée.
La présidente se garda une nouvelle fois d'exprimer son opinion, mais après quelques secondes de retenue, un tonnerre de cris et d'applaudissements résonna dans la grotte. Si le tiers des membres de l'Assemblée qui soutenaient l'option d'Ossian s'exprimèrent, protestèrent, il fut impossible de les entendre, noyés dans l'enthousiasme général de la majorité. Lilio gravit les 10 marches de l'escalier taillé dans la falaise pour atteindre l'anfractuosité signalée par une torche accrochée à la roche, leur chambre. Un trou de moins de 2 mètres sur 3. La plupart des assignés dormaient dans des habitats troglodytes semblables, le long de la paroi abrupte dominant la vallée. Lilio avait traîné. Il était resté à discuter avec Asima Majdalawi, Saladin Ziryab, l'assigné kurde, et Chenoa Galvirino, la militante mapuche, alors que Cléo était allée directement se coucher. S'allonger, du moins. Elle ne dormait pas. Elle se redressa dès que le journaliste entra, tête baissée pour ne pas se cogner au plafond de calcaire.
« Vous n'êtes qu'un apprenti sorcier, Lilio de Castro. Vous êtes inconscient. Vous êtes rongé par l'ambition. Vous êtes... »
Cléo avait craché une première salve d'insultes sans respirer. Le temps qu'elle reprenne son souffle, Lilio s'était assis au bout de la couverture qui leur servait de lit. Son calme et son sourire contrastaient avec la colère de l'institutrice. « Parce que vous trouvez normal, Cléo, que l'OMD enferme des citoyens sur cette terre, dans le plus grand secret sans que les terriens n'en décident dans l'Ecclésia ? Des citoyens exilés, pas pour un crime ou un vol, pour leurs opinions. Parce que vous ne trouvez pas que leurs idées méritent d'être écoutées ? Vous ne trouvez pas que les gens ont le droit de savoir ? Vous ne trouvez pas que planter des drapeaux ou coller des affiches sur les plus grands sites du monde, dans toutes les langues, sera un symbole sublime, inoubliable ? Vous ne trouvez pas qu'il y a de la dignité, de la noblesse dans la cause des assignés ?
Leur cause ? Vous vous en foutez ! Ce malade d'Ossian a raison, vous défendez uniquement votre propre petite gloire personnelle !»
Lilio rampa sur la couverture pour prendre l'institutrice dans ses bras. Mais elle se recula, jusqu'au fond de la grotte, jusqu'à ce que son dos s'écrase contre la paroi humide. Elle frissonna.
« Réveillez-vous !»
fit Lilio en haussant le ton.
« Êtes-vous consciente du danger que représente un gouvernement unique sur cette terre ? Une seule assemblée, un seul gouvernement, un seul président pour diriger 10 milliards de citoyens ? Sans contre-pouvoir, sans presse libre, sans personne pour tout mettre sur la table, le monde deviendra totalitaire. Je n'ai pas le choix, les terriens doivent savoir. Je ne fais que mon boulot, Cléo. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Accordez-moi au moins ce courage. »
Cléo tremblait toujours. Lilio continua de ramper pour se rapprocher. Elle se recroquevilla, genoux repliés contre sa poitrine.
« Du courage ! Et s'il y a des dérapages ? Et si vos illuminés téléportés ne se contentent pas d'agiter des drapeaux en haut de la tour Eiffel ou de Big Ben ? Je veux bien que la majorité de ces gens ne soient pas dangereux, qu'ils soient sincères et pacifistes, et admettre que c'est un scandale qu'ils soient ainsi enfermés, mais reconnaissez que parmi eux, il y a aussi sans doute de vrais extrémistes. Un tiers d'entre eux ont soutenu Ossian. Que vont-ils faire une fois le TPC à leur poignet ? Qu'allez-vous faire s'ils tirent dans le tas, s'ils se font sauter dans la foule ? Vous vous contenterez de photographier, de filmer ? Parce que vous serez le premier sur le coup ?
Cléo ! Lilio chercha sans succès à attraper la main de l'institutrice.
Cléo ! Répéta Lilio. Ce n'est pas moi qui ai enfermé ces hommes et ces femmes. Ce n'est pas moi qui en ai fait des faux vancages. Ils se seraient échappés un jour ou l'autre. Au moins pour eux, les choses sont claires. Leur assemblée, des peuples libres, a voté. Ils se connaissent. Ils sauront qui contrôler. Demain, n'oubliez pas, c'est le centenaire de la téléportation. La cérémonie appartient à tous les terriens. Galileo Nemrod a imaginé sa nouvelle Babel, 10 milliards d'êtres humains rassemblés sur le caillou le plus isolé du monde. Vous ne trouvez pas ça aussi fou, aussi dangereux que quelques centaines d'idéalistes en pèlerinage sur leur terre promise ?
Cléo ferma les yeux ostensiblement. Elle avait l'impression que la lueur des torches brûlait encore derrière ses paupières.
« J'en sais rien, Lilio, j'en sais rien. Je suis fatigué. Je veux dormir maintenant. Je veux me réveiller ailleurs. Tout est trop compliqué ici. Tout est trop froid, tout est trop noir, tout est trop sale aussi. Regardez. »
Le sol de leur grotte était jonché de détritus et de tessons de verre.
« Je crois que je ne suis pas taillé pour toutes ces aventures. »
Elle lâcha enfin un sourire et écarta avec dégoût du bout des doigts un papier gras.
« Vous voyez ? J'arrive même pas à vivre dans un monde où les déchets ne disparaissent pas par magie. Laissez-moi, Lilio. Laissez-moi. »
Le journaliste s'avança pourtant, accroupi, jusqu'à l'institutrice prostrée contre le mur froid de la chambre de pierre. Il posa un bref baiser sur ses lèvres, puis il sortit. Il descendit les marches de l'escalier pour marcher le long de la vallée. Le lit de la rivière était éclairé de torches plantées tous les 100 mètres. Et de milliers d'étoiles. Le journaliste réfléchissait aux dernières paroles de Cléo. Et s'il y a des dérapages ? Et s'ils tirent dans le tas ? Et s'ils se font sauter au milieu de la foule ? Il voulait chasser ces images de carnage sans y parvenir. Le risque existait, il ne pouvait le nier. Ce qu'il était en train de faire consistait, ni plus ni moins, à ouvrir en grand les portes d'une prison. Dans son dos, un bruit de pas le déconcentra. Un bruit de pas étrange, irrégulier. De
deux pieds qui glissaient et un troisième qui cognait. Une canne. Ossian. Le vieil idéologue se tenait derrière lui.
Monsieur de Castro, je peux vous parler? En privé?